Guenel, juste avant ce moment musical, nous parlions de l'écoute du mouvement respiratoire primaire.
Voilà. Donc le mouvement respiratoire primaire, il est vraiment central dans la pratique de la thérapie crânio-sacrée. Le thérapeute va en fait évaluer, en posant ses mains à différents endroits du corps, évaluer comment ce mouvement se transmet dans chacune des parties du corps, donc comment les os du crâne bougent, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais également comment chaque organe se fond dans ce mouvement. Et donc il va avoir une forme d'évaluation de ce mouvement, son amplitude, sa symétrie, et voir effectivement détecter dans le corps les endroits où le mouvement est restreint. On va parler de restriction d'ailleurs. Ces endroits en fait sont des endroits où le corps est en tension. Il y a donc dans les tissus physiques, on va dire ça comme ça, une crispation ou une rigidité qui fait que ces mouvements vont être moins amples à ces différentes parties du corps.
Et en fait, qu'est-ce que cela vous permet de découvrir ?
Ce que l'on découvre donc en découvrant ces zones de restriction, c'est ce qu'on appelle en thérapie crânio-sacrée des kystes énergétiques. Alors, c'est quoi un kyste énergétique ? C'est un endroit du corps où une grande émotion ou un choc physique, ou parfois les deux, va venir s'imprimer dans le corps, va venir en fait imprimer une force, et le corps va emmagasiner, encapsuler cette force parce qu'il n'a pas eu la possibilité de l'évacuer. Et ça va créer, une restriction ou une crispation, une rigidité dans le corps. Et là, on va découvrir en fait la mémoire du corps, la mémoire émotionnelle qui est vraiment contenue dans les tissus et particulièrement dans les tissus conjonctifs, donc dans les fameux fascias que j'ai évoqués tout à l'heure.
Donc vous êtes en train de dire que notre corps capte nos émotions et les conserve.
Alors, il capte nos émotions certainement, mais il les contient quand elles sont trop fortes et qu'on n'a pas eu l'occasion de les évacuer ou de les faire circuler, pour dire plus justement les choses. Donc si je dois prendre un exemple, lorsque j'ai un accident de voiture, je vais avoir un choc. Un choc physique, effectivement, parce qu'il y a un choc entre les deux véhicules au minimum. Mais il y a aussi un choc émotionnel, c'est-à-dire que je vais avoir peur, on peut, semble-t-il dire qu'on va avoir peur, et donc le corps va faire une certaine posture, vous voyez éventuellement le visage ou la posture de quelqu'un qui a peur, il va peut-être remonter les épaules, il va serrer au niveau de son buste, il va certainement couper sa respiration, et donc là est contenue une énergie émotionnelle qui, si elle n'est pas exprimée, hein, donc soit à ce moment-là en criant éventuellement, ou peut-être plus tard, mais en tout cas assez tôt par rapport au moment où se produit l'événement, eh bien elle va rester emmagasinée dans le corps. Cette énergie-là, qui est vraiment l'énergie de l'émotion, parce que l'émotion c'est une énergie en fait, hein, elle est là pour que l'on puisse prendre action. L'émotion, si cette énergie n'est pas dispersée, si le corps n'a pas la possibilité d'évacuer cette énergie, elle va effectivement rester dans le corps et le corps va l'encapsuler, c'est-à-dire qu'il va créer une paroi, hein, il va l'isoler au sein même de son fonctionnement, de son organisme, et il va fonctionner autour comme s'il n'existait pas. Donc vous pouvez imaginer qu'à un moment donné, ça va poser un certain nombre de problèmes, notamment au niveau de la mobilité du corps. Alors, quand je reprends mon exemple d'accident de voiture, on a remarqué que les personnes qui ont des accidents et qui ont des accidents quand ils dorment ont moins de séquelles physiques que ceux qui ont un accident en étant conscient. Qu'est-ce qui se passe ? Ben, il se passe que le corps d'une personne qui est endormie est beaucoup plus libre, il est beaucoup plus fluide, il n'est pas en tension, il n'est pas forcément en train, sauf si on rêve ou on fait un cauchemar, mais il n'est pas en train de se tracasser ou de réfléchir à toute une série de choses. Et donc les tensions du corps sont relativement relâchées. Or, un corps relâché qui reçoit un choc a plus de possibilités d'évacuer ce choc, c'est-à-dire la force physique du choc. Et le corps va donc garder moins de séquelles, moins de restrictions, moins de tensions suite à cet accident. Il va pouvoir réagir comme une poupée un peu élastique, si je dois donner une image de ce que ça pourrait être. C'est-à-dire vraiment pouvoir mettre en mouvement l'ensemble du corps au moment du choc et faire en sorte que le corps, dans ce mouvement fluide, puisse évacuer réellement, en tout cas une grosse partie, de l'énergie physique qu'il est en train de recevoir par le choc.
Sinon, en cas de, puisque vous parlez d'accident, la personne se rend compte que l'accident va avoir lieu, l'impact va avoir lieu, et il se met en tension par rapport à ce qui vient, et c'est de ce fait-là.
Exactement. Donc, si on a une anticipation, je parle d'un accident de voiture ici, mais ça peut être une situation dans la vie tous les jours, quelque chose qui nous met en colère ou qui nous pose problème. Donc, chaque fois que je vais anticiper un choc, hein, que ça soit avec une voiture ou avec une situation, je vais me mettre dans un état de rigidité qui fait qu'effectivement ma possibilité de recevoir l'énergie de ce choc va être de la recevoir, en tout cas de la disperser, de la fluidifier dans mon corps, va être entamée, va être moindre.
Alors j'aimerais que nous revenions sur ces émotions. Nous allons d'abord faire une deuxième pause musicale, et puis j'aimerais que nous revenions sur ces émotions, parce que ça me semble très important.